Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. Ravi de vous retrouver en ce jour de fête nationale en France. Nos consultants n'attendent pas le 14 juillet pour défiler dans notre studio sans armes, sans haine ni violence, avec simplement beaucoup de mauvaise foi dans leur besace. N'est-ce pas, Naïmoniel?
Salut Hugo, salut à tous. J'ai toujours beaucoup de mauvaise foi avec moi.
Voilà, vous ne me contredisez pas. Vous êtes au moins honnête sur ce point. Bonjour Franck Simon.
Salut Hugo, all you need is love.
Exactement. Oui, oui, oui.
Souvenez-vous, le début de All You Need Is Love, c'est la Marseillaise.
C'est la Marseillaise, exactement. Ouais. Et puis ça fait du bien de parler des Beatles dans cette émission. C'était assez inattendu, mais pourquoi pas. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Des amoureux de l'Afrique, Franck, Gilles, Naïm également, des amoureux de Sadio Mané, notamment la star sénégalaise assurée de rester pas mal de temps encore sur le toit du continent, meilleur joueur africain de l'année écoulée. Il ne remettra pas son titre en jeu pour 2020. La pandémie a obligé récemment la CAF à prendre un certain nombre de décisions et ses prochains trophées de fin d'année, trophées individuels notamment, ne sortiront pas du placard. Petite déception ou bien gros coup dur pour le foot africain, la question sera posée. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour aborder un sujet complexe. Quand un club déniche une pépite, quand il polie un diamant brut, puis qu'il voit cette merveille lui échapper, que faut-il en penser? Tanguy Kouassi s'est révélé récemment sous les couleurs du PSG, mais il vient de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich. Et aujourd'hui, c'est Isaac Liadji qui justifie son départ de Lille, alors que son club formateur, l'OM, semblait prêt à lui faire confiance. Heureusement, les talents ne quittent jamais le bureau de Radio Foot International. Émission préparée avec Sarah Loubacouche, réalisée par le maestro Laurent Servet.
Trois points de plus vers le titre pour le Real Madrid. Succès 2-1. Le Real reprend ses 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Si jeudi le Real gagne contre Villarreal, le Real sera sacré champion d'Espagne.
Laurent Salerno, je l'ai un petit peu écorché. Qu'il m'excuse. Rien de neuf, ou plutôt 9 sur 9 pour le Real Madrid depuis la reprise, grâce à son 9. Nouvelle victoire en Liga, à Grenade, 2-1. Benzema, buteur à la 16e minute. Mais c'est un autre Français qui a ouvert la marque, et de fort belle manière pour les merengués, Ferland Mendy. Retour sur ce chef-d'œuvre dans quelques instants. D'abord une question simple, messieurs. Naïm, il reste 2 journées de Liga. Le Real affronte Villarreal jeudi avec, on a entendu, 4 points d'avance. Est-ce que ce sera le match du titre pour la bande Azizou?
A priori, oui. Match à domicile, qui plus est. Moi, ce qui m'a surtout épaté encore hier et puis sur les matchs précédents, c'est que le Real, il s'est gagné en n'étant pas forcément bon. En tout cas, pas bon 1h30. Donc, il est en difficulté, il concède des occasions, il est un peu large derrière, mais il gagne. Donc voilà, quand vous avez ce genre de dynamique, quand vous êtes capable sur 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes de tuer n'importe quelle équipe, oui, vous finissez champion. Puis le Barça a tellement montré de carence dans beaucoup de domaines que je vois pas comment ils peuvent inverser la situation sur les 2 prochaines semaines.
Tout le monde est d'accord. Vendredi, on verra un Rémy Ngono triompher sur le plateau du Café des Sports après le sacre de son Real Madrid.
Mais certainement, bon courage à vous donc.
Hein. Moi, j'y serai pas. Gilles Verdez.
Il n'y a aucun doute, ce sera en plus au stade Di Stefano, où il joue en ce moment depuis la fin du confinement, donc ce sera comme un symbole. Il n'y a pas de rival effectivement, puisque Barcelone s'est effondré, donc ce sera le match du titre, et s'il le faut, il y aura un pénalty généreusement donné pour...
Je vois que Gilles est très observateur de ce qui se passe là-bas depuis quelques semaines.
Il n'y a pas que ça, bien entendu, dans les succès du Real, mais il y a aussi ça. Et puis il y a Benzema qui pour moi joue au niveau d'un ballon d'or.
Et puis, oui, ça pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, faut quand même, c'est une certaine logique aussi. C'est-à-dire que vous avez une équipe du Real qui n'a pas tout bien fait cette année, mais qui en tout cas a déjà fait mieux que le Barça, et puis qui finalement a réussi à trouver un rythme de croisière en gagnant beaucoup de matchs, en marquant beaucoup de buts, en étant très solide derrière. Gilles dit Benzema joue à un niveau de ballon d'or. Ramos aussi joue à un niveau de ballon d'or depuis le retour du confinement. Bon, ils ont un banc de touche, il y a un super entraîneur, ils ont bien géré tout ce qu'il fallait, la préparation avant le Covid, après le Covid. En fait, ils savent faire tout mieux que ce que fait le Barça, qui, je le rappelle, sous Valverde était quand même premier, puis qui finalement maintenant est deuxième, soit dit en passant.
On rappelle que le Barça, jeudi, affrontera dans le même temps, au même moment que le Real affrontera Villarreal, Osasuna. Oui. Bon, a priori, le Barça devrait s'en sortir, mais on voit mal Villarreal poser des problèmes au Real Madrid, Gilles Verdez.
Et puis, au Real, vous avez à la fois la juxtaposition de talents individuels extraordinaires, y compris Mendy qui se révèle là sur un match avec une performance et un but fabuleux, et vous avez aussi un collectif façonné par Zidane et un état d'esprit. C'est-à-dire que même dans leur temps faible, là, ils ont été très bons avec de la possession en première mi-temps, et même dans les temps faibles, ils prennent qu'un seul but sur les 6 derniers matchs, c'est-à-dire qu'ils arrivent à gérer, ils arrivent à mentalement, grâce à Zidane à mon avis, à être bien supérieurs à leurs adversaires. Lorsque leurs adversaires sont forts, ils n'arrivent quand même pas à marquer.
C'est simple, quand tu gagnes en étant moyen, c'est que t'es plutôt
c'est
pas
bon
mal.
Signe.
C'est bon signe.
Surtout
c'est plutôt bon signe. Voilà, dans un sprint final. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ce que le Barça ne fait pas. Le Barça, quand il est moyen, il gagne pas. Déjà, quand il est bon, il a du mal à gagner, ou en tout cas à gagner bien. Et en étant moyen, il gagne pas. Alors que le Real, il va concéder des occasions, il peut prendre des buts, il peut se faire bousculer. Il finit toujours par s'en sortir.
Un homme dans le match, hier, en Andalousie.
Casemiro, Mendy. Alors peut-être y aller seul, voilà Mendy, il provoque encore, il y va Mendy, le but, incroyable, quel l'assaut, presque inimaginable, presque invisible, quel but exceptionnel, bombasso de Fernand Mendy, le Real mène 1-0.
C'est une première année pour lui, il est au niveau. Et ça c'est la bonne nouvelle. Enfin, je pense que de toute façon il est venu ici pour justement montrer ses qualités et c'est ce qu'il est en train de faire et on est tous contents de son rendement.
10e minute, le déboulé et le pétard, le missile du gauche. Quel but de Ferland Mendy pour ouvrir les débats hier face à Grenade. Son tout premier but, hein, sous la liquette blanche et mythique du Real Madrid. Il s'en souviendra toute sa vie. Ferland Mendy arrivé l'été dernier en provenance de Lyon. Zidane en disait du bien. Avant la rencontre, ce qu'on a entendu a été dit avant la rencontre face à Grenade et donc avant ce but magnifique. Ferland Mendy, je vous le rappelle, arrière-gauche. En clair, il doit théoriquement au Real Madrid succéder à Marcelo qui lui-même succède à Roberto Carlos. Rien que ça, son golazo, comme on dit en espagnol, vient-il, à défaut de dire qu'il est l'héritier de Roberto Carlos, Neymonial, vient-il sanctionner une bonne première saison comme le pense son entraîneur?
Évidemment. D'abord, faut admettre un truc, c'est que Zidane se trompe pas beaucoup sur le recrutement. Parce que quand il valide un joueur...
Celui-là, il a quand même été largement discuté. Plus de 50 millions d'euros si on compte
oui,
les
la somme,
bonus.
Oui, la somme était élevée.
Pour un joueur qui a deux saisons en Ligue 1, qui a 25 ans, qui n'est pas exactement
oui, enfin,
un espoir.
Quand on fait venir des mecs d'Argentine ou du Brésil qui ont 15 matchs de championnat et qui coûtent à peu près le même prix, ça ne fait pas débat non plus. Donc il faut être, faut être juste, il faut être impartial. Ferland Mendy, oui, le prix était cher, mais il y a un vrai potentiel de fond. Et puis je pense qu'il est arrivé au bon endroit, c'est-à-dire dans une équipe où les latéraux joue l'offensive, vous avez parlé de ses ancêtres qui ont effectivement tout ce style, avec un entraîneur qui sait faire jouer son équipe. Donc il est au bon endroit, au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il va tout réussir, évidemment. Mais je pense qu'il est plutôt bien tombé avec Zidane, avec des coéquipiers qui le font jouer dans un système qui lui convient. Et puis il est jeune. C'est que moi, je suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Marcelo dans l'absolu, mais il a quand même beaucoup plus l'avenir.
Alors quelques chiffres hein, pour situer un petit peu sa saison bizarre pour tout le monde, comme pour lui comme pour les autres. 17 titularisations en Liga, c'est pas tant que ça, mais il a été pas mal blessé, notamment il a été blessé lors de son premier match contre le Celta Vigo. 4 passes décisives et donc ce but, et il avait signé une passe décisive récemment contre Alavés, donc c'est quand même plutôt bien au niveau des chiffres et c'est régulier, ça progresse jusqu'à ce but hier, Franck Simon.
Enfin, 17 matchs dans un club comme le Real et pour une première saison.
Avec Marcelo qui est toujours là, parce qu'il est censé lui succéder, mais
ouais, il est successeur. Donc en fait, il apprend un peu le fonctionnement du club et le fonctionnement aussi le style de jeu. Il est en train de s'en imprégner. Et puis comme mes collègues l'ont expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles avec Zinedine Zidane, il te met en confiance, il te parle, il te responsabilise, les autres te responsabilisent. Il est en train, je trouve, justement, de marquer les points pour peut-être laisser derrière lui Marcelo, qui deviendrait un acteur de complément dans la saison prochaine. C'est pas impossible. Hein, alors qu'on connaît tous la qualité technique de Marcelo, mais là on a un gars qui, je pense en plus, je pense qu'il est meilleur défenseur en plus que Marcelo.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais. Donc et ça c'est plus complet. Plus complet.
Et puis il y a quand même un truc, c'est que mine de rien, on parle de ce que Ferland Mendy a fait dans l'esprit de Zidane, dans la rotation de Zidane, mais le fait aussi dans la rotation de Deschamps, parce qu'il est aussi dans l'esprit de Deschamps un potentiel titulaire, en tout cas un potentiel des 23 au poste d'arrière gauche avec Hernandez, et il est passé devant l'autre Mendy, celui de City, et finalement en très peu de temps, parce que quand il arrive à Lyon, il n'y est pas international. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même une progression rapide qui ne s'est pas stoppée au moment où tu changes de dimension, parce que quand tu passes de Lyon à Madrid, tu changes de dimension. Puis il y a des moments, tu as des très bons joueurs qui arrivent pas à changer de dimension. Lui, ça, il le fait bien. Zidane l'accompagne, Franck le dit, les autres le disent, tu joues avec Ramos, Modric, Casemiro, tu as quand même des mecs, Benzema, tu as quand même des cadors à tous les postes. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien et j'ai l'impression qu'il est un peu plus intelligent que les autres mecs de sa génération. Je pense au Dembélé, à l'Otmendi et compagnie. J'ai l'impression qu'il a l'air peut-être un petit peu plus posé, lui.
Et peut-être mieux entouré, excuse-moi.
Ouais, c'est ça.
Mieux entouré, peut-être.
Le pauvre Gilles Verdez, qui n'arrive pas à en placer une sur Fernand Mendy.
C'est suffisamment rare pour être dit.
Il a tellement de choses, de bonnes choses à nous dire sur Fernand Mendy, qui, si j'en crois Naïm, arrive à maturité dans le vestiaire le plus compliqué du monde. C'est un petit peu étrange, parce qu'il était un peu discuté à Lyon pour une certaine irrégularité.
Exactement. Mais ce but-là restera comme le symbole du passage de témoin. Marcelo n'existe plus, tu dis il sera remplaçant.
Qu'est-ce que t'es dur.
Je pense qu'il sera contraint à l'exil. Comme d'ailleurs Benzema a contraint à l'exil, c'est le triomphe français. Soyons un peu cocorico aujourd'hui. Ah bah Benzema a contraint à l'exil tous ses adversaires avant-centre.
Bon, tous ses concurrents, oui,
sauf Ronaldo qui est parti, ok, d'accord. Tous les autres sont partis, découragés, dépités, en mal de temps de jeu. Fernand Mendy va faire pareil, Marcelo c'est fini. Et je vais vous dire, son but hier, pour moi, alors un petit peu moins spectaculaire, mais c'est le Roberto Carlos, pas sous les couleurs du Real, mais sous les couleurs du Brésil, ce fameux but sur coup franc extraordinaire. Etc.
Contre la France.
Contre nous.
La France, justement.
Mais oui. Et ce but de Fernand Mendy restera le Roberto Carlos de Mendy. Ce but-là le fait entrer dans l'histoire du Real.
Ce serait bien qu'on en reparle de son but quand même, hein, parce que
et extraordinaire.
Il y a la course et la frappe. Tu
mais
vois,
oui, et vous avez dans le but non seulement la technique individuelle ponctuée par un tir d'avant-centre, d'attaquant pur, mais vous avez aussi l'accélération, donc la vitesse, et l'intelligence
la malice,
de jeu.
Même
exactement,
la malice,
c'est-à-dire qu'il s'arrête à un moment et il voit l'ouverture. Ce but est prodigieux. Et Fernand Mendy est maintenant au niveau des prodiges.
Franck, vous vouliez en parler de ce but également.
Mais j'ai l'impression, quand on revoit le but, en fait, hein, alors sous n'importe quel angle, t'as l'impression que le gardien, tu sais, d'un seul coup, il se tasse sur ses appuis, il a rapetissé, parce qu'il lui met vraiment le ballon entre la barre et ses gants, quoi. Il y a très peu d'espace.
Le gardien n'y est pour rien, c'est le but qui est beau.
Le gardien, il y a un peu pour quelque chose. Il a l'intelligence, il a la malice.
Ça atténue un petit peu la portée de ce but.
Le ballon arrive vite quand même.
Ouais, ça arrive vite, le gardien est comme ça.
Un sacré missile. Non, mais ça fait. Il y a un indice, il y a eu un indice, quelques jours, quelques semaines de la place qu'a pris Fernand Mendy au Real Madrid, c'est qu'Achraf Hakimi, qui était prêté par le Real à Dortmund, n'est pas revenu.
Alors qu'il pourrait jouer à gauche.
Alors qu'il pourrait jouer à gauche aussi également, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche.
Ça veut dire que Mendy devient ce que Carvajal est à droite.
J'ai pas dit ça. Pour qu'il devienne ce que Carvajal soit à droite, il va falloir qu'il joue longtemps et à très haut niveau. Il lui manque l'aspect régulier du truc. Mais sur le potentiel de fond, et c'est là où je te dis que Zidane se trompe finalement rarement quand il valide un joueur, c'est que ce qu'il amène au Real, il fait pas tâche. C'est-à-dire que le Real, quand il recrute un joueur qui est pas au niveau, que ce soit techniquement ou au niveau de l'investissement personnel, il y en a eu, hein, des Rames Rodriguez, on va peut-être parler de Gareth Bale après. Il s'en va, ou alors il joue pas. Lui, il arrive, il joue, il gagne de plus en plus de temps de jeu. C'est ça le truc.
C'est toute l'intelligence, la patte du meneur d'homme qu'est devenu Zinedine Zidane. Ouais. C'est-à-dire de le gérer suffisamment, tu le mets à bon escient. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le money time dans un championnat. C'est là que ça se gagne. Et il le fait jouer là, il va pas le mettre en difficulté à d'autres moments. Le gars est parfaitement préparé, adoubé par des cadres, parce que là on a cité tous les trois des joueurs, on a des papas hein, dans l'équipe actuellement. Hein. C'est des gars qui ont un gros vécu, et je pense que ça aussi ça aide. Il le crame pas, il le fait jouer à bon escient et au bon moment.
Gilles Verdez, le mot de la fin sur Mendy.
Il y a eu quelque chose aussi, alors sur Mendy et sur les autres, que Zidane avait planifié, pour revenir sur ce que disait Franck, c'est que c'est celui qui a le mieux géré, parce qu'il avait avant, dès le début, il a eu une planification extrêmement rigoureuse, à la madrilène, ça rigole pas, du confinement. Et regardez, 9 victoires en 9 matchs du Real, avec des joueurs supersoniques, l'accélération de Fernand Mendy, pour revenir sur lui, personne peut lui résister, parce que physiquement, ils ont géré magnifiquement une période compliquée. Donc, Fernand Mendy, c'est l'exemple de la planification de Zidane, c'est l'élément clé du Real en ce moment avec Benzema.
Bon, il y a un petit mouton noir quand même qui se cache dans cet effectif tout de blanc vêtu. Un autre joueur a fait parler de lui hier à Grenade pour un autre type de prestation. Saviez-vous que Gareth Bale portait toujours les équipements du Real Madrid? Mais si on avait eu tendance à l'oublier ces derniers temps, alors il porte davantage la chasuble du remplaçant que le maillot du titulaire. Il ne joue pratiquement pas depuis la reprise, le Gallois, mais il fait parler de lui en raison de son attitude sur le banc. et après avoir mimé une sieste avec son masque chirurgical sur le banc contre Alavés récemment, il s'est fabriqué de fausses jumelles avec un rouleau de papier de toilette. Hier, c'est ingénieux, c'est une blague potache, mais qui a fait réagir et les commentateurs de la télévision espagnole, mais aussi son coach.
Gareth Bale volvió al banquillo del Real Madrid y como viene siendo costumbre siguió.
No, absolutamente nada, ya está.
Je n'ai aucun reproche particulier à lui faire. Maintenant, on est leader et on ne pense qu'à une chose, c'est l'objectif de gagner la Liga.
Intentar ganar esta Liga, nada más.
Bon, Zidane, il est calme, il évacue la polémique. S'il y a polémique, justement, c'est peut-être la question que je peux vous poser. Est-ce que c'est... Parce que Gareth Bale, personnalité un peu étrange, et c'est pas la première fois qu'il est un petit peu provocant dans son attitude lorsqu'il avait ironisé sur son amour du golf par rapport à son amour pour le Real Madrid, Gilles Verdez.
Bien sûr qu'il y a polémique, mais Zidane, il sait qu'il faut pas, surtout à Madrid ou à Barcelone, mettre le feu au feu. C'est-à-dire que si vous jouez les pompiers pyromanes, là, la polémique va envahir les journaux, ça va déstabiliser la fin de saison du Real qui joue gros quand même. Mmh. Ce titre national tant attendu, tant rêvé. Donc, il dédramatise. Mais Bale, franchement, il se fout du monde. Je trouve ça honteux. C'est-à-dire qu'à son niveau de salaire, vous pouvez être remplaçant, vous vous taisez. Mais là, je trouve qu'il crache sur le maillot du Real avec son papier hygiénique, avec sa sieste. Je trouve ça insultant pour ses coéquipiers, insultant pour les gens qui regardent le match. Il n'y a pas de public. Bon, mais je trouve ça vraiment infâme, indigne d'un grand joueur.
Ah, les mots sont très, très
grands.
Grand
joueur, vous ne pouvez pas faire ça.
Ouais, un ex-grand joueur. Joueur. Un ex-grand joueur, ouais. On est d'accord.
Alors, rappelons quand même qui est Gareth Bale au Real Madrid. Il a d'abord été le joueur le plus cher de l'histoire lorsqu'il arrive en 2013. Il est largement présent dans les sacres en Ligue des Champions 2014, 2016, 2018. Fabuleux doublé, notamment un retourné. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de ce club et en même temps qui jouit d'un statut un peu particulier parce que, notamment depuis que Zidane est là, il est un peu toujours partant. Il n'est pas toujours titulaire. On ne sait pas trop s'il est impliqué. Franck Simon, quel regard vous portez sur ce joueur unique à plus d'un égard?
Un regard extrêmement critique, mais aussi très négatif, très déçu.
Vous rejoignez Gilles sur le fait qu'il y a une sorte d'insulte un petit peu à l'esprit dans ces blagues qui ne sont que potaches.
Vous savez, Hugo, comment ça se traduit après dans les communiqués, hein. C'est une insulte à l'institution qu'est le club. C'est souvent
oui,
ça.
Alors maintenant, on monte un petit peu sur ces grands choix dans le vocabulaire employé.
Mais honnêtement, ce qu'il fait, c'est un désastre absolu. En fait, il le fait. Alors tout à l'heure, je parlais des choix de Zidane à bon escient avec Ferland Mendy, mais là, lui, il le fait à mauvais escient. Là, il est en train il se fait harakiri, le type. L'histoire du rouleau de papier, etc. Et c'est pas parce que tu as aidé à gagner tant de titres, que tu as été important à une époque, que tu dois tout te permettre. Et c'est ce en quoi je pense qu'il ne laissera pas une trace importante. On compare avec, enfin, je vais même pas le comparer, mais tu vois, Cristiano Ronaldo, il est intouchable.
Bah, il fut un temps où on les a comparés parce qu'ils étaient les deux stars, les deux plus chers.
Forcément. Mais aujourd'hui, Cristiano, il craint rien. Cristiano, il restera là. Et Gareth Bale, on le mettra dans un coin parce que justement, il aura terni la fin de son passage. C'est la fin de son passage.
Juste une chose, Naïm, quelques chiffres. Hein. 16 apparitions en Liga cette saison, 2 buts, 2 passes décisives. C'est pas ridicule, mais presque. N'a disputé que 2 des 11 derniers matchs de Madrid avec 29 minutes contre Eibar. Mi-juin, n'a plus foulé la pelouse depuis le 24 juin, une titularisation, contre Mallorca. 5 matchs d'affilée sans la moindre minute en Liga.
Mais c'est justement, Hugo, Franck et Gilles ont raison de tacler le joueur parce que son comportement, c'est pas professionnel, c'est indigne. Mais tu sais, moi, je suis surtout critique envers le Real Madrid parce que le Real Madrid a perdu le bras de fer contre Gareth Bale en disant c'est notre plus gros salaire, il lui reste pas mal d'années de contrat, on le garde. Real Madrid, il est pas à 40 ou 50 millions près. Ils peuvent faire le chèque.
Vous voulez dire qu'il aurait fallu le vendre l'été dernier?
Mais il aurait fallu le vendre il y a 2 ans.
Parce que là,
déjà,
il est là jusqu'en juin 2022, s'il va au
bout de son contrat. Mais il aurait déjà fallu le vendre il y a un petit moment, Gareth Bale, puisque de toute façon, vous avez un joueur que vous surpayez, parce que 17 millions d'euros pour un mec qui n'a pas joué sur les 5 derniers matchs, qu'on a fait 2 sur 11, qui a joué 29 minutes, qui a des statistiques ridicules, c'est balancer de l'argent par les fenêtres.
C'est un fil à la patte.
Mais bien sûr, donc, clairement. Faites-lui le chèque, faites-le partir, qu'il dégage, et que vous rentabilisez les autres, parce que en plus de donner une mauvaise image de lui, il donne une mauvaise image du club. Le club a perdu le bras de fer contre Gareth Bale, et pour une institution comme le Real, c'est quand même pas terrible.
Gilles. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Bale joue les hypocrites. Bale n'a jamais vraiment fait le pas de partir. Bale prétendument n'a jamais trouvé une équipe qui pourrait être de son niveau.
Mais les clubs anglais l'auraient acheté, Gilles,
non,
tu le sais.
Lui ne veut pas. C'est lui qui ne veut pas partir.
Pourquoi il veut pas?
Parce qu'il dit.
Parce que la soupe est bonne.
Je suis très bien. Exactement. La soupe est bonne et je veux une meilleure soupe ailleurs. Pas une soupe financière, mais une soupe d'un autre niveau. Je veux jouer dans un club digne du Real. Mais mon vieux Bale, il y en a pas.
Mais parce que le Real a été faible de le laisser faire. Le Real a été faible. Le Real a fait partir Casillas, le Real a fait partir Raúl, le Real a fait partir Guti. Quand tu veux faire partir Gareth Bale, tu le fais partir. C'est qui Gareth Bale?
Ben, on dit souvent
Bale,
que c'est un...
Bale, il s'en fout de pas jouer. Il dit, moi, je suis payé.
Oui,
si
mais
j'ai pas
le Real, en surpayant un joueur qui ne joue pas et qui ridiculise tout le monde, en fait, entache son image lui-même. Évidemment qu'il a de la responsabilité. Mais Florentino Pérez et même Zizou là-dessus, ils doivent le faire partir, ils doivent tout faire pour le faire partir.
C'est un joueur qu'on dépeint souvent comme peu intéressé par le football. Je disais comment il ironisait sur son amour pour le golf. C'est quand même un spécimen particulier, un joueur qui a un tel niveau,
oui,
en se désintéressant.
C'est devenu un boulet
de son sport.
C'est devenu un boulet pour le Real Madrid. En soi, qu'il soit pas super intéressé par le foot, qu'il mange pas du foot quand il est pas sur le terrain, il y en a plein des joueurs comme
tout
ça qui ne s'intéressent
pas. Thierry Henry,
voilà.
C'est sûr.
Tout le monde n'est pas Thierry Henry. Il y a pas que des passionnés chez les footballeurs. Mais quand vous provoquez, parce que vous savez très bien que quand vous, même s'il y a pas de public, vous savez qu'avec les caméras qu'il y a, vous êtes au Real Madrid. Vous savez, quand vous faites le guignol avec des jumelles, quand vous faites une sieste, quand vous mimez un club de golf, quand ceci, quand cela, vous savez que vous allez faire parler. Vous savez que vous allez mettre le mauvais projecteur sur le club. C'est un boulet pour le club et que le Real Madrid tolère, accepte ça, moi je trouve ça quand même incroyable.
Allez, le mot de la fin.
Et le vestiaire.
Vous pensez que le vestiaire, on le décrit comme isolé dans le vestiaire.
Mais il est là. Sa force, c'est le contrat de 2 ans. Sa force, c'est de dire au Real, mais moi, ok, je fais ce que je veux, je fais la sieste, je vous regarde. Avec du papier génique, donc de loin, avec de fausses jumelles, c'est un symbole. Je regarde tout ça de loin, donnez-moi mon salaire pendant 2 ans. Voilà, donc il est quand même fort. Je suis pas d'accord avec Naïm, Bale est fort là.
Bon. Bah oui, il est fort, mais le Real est faible en fait. C'est ça, c'est l'institution Real, je la trouve faible face à Gareth Bale.
En attendant, mon cher Naïm, ce faible Real devrait, selon toute probabilité, être sacré champion d'Espagne jeudi. Real Villarreal, on rappelle, jeudi soir, et puis le lendemain, on attend Rémi Ngonou.
Martial coming in from that left and firing home. Unstoppable, sensational. In the blink of an eye, Manchester United have turned this one on its head.
En Angleterre, Manchester United rate l'occasion de grimper sur le podium. La faute à un but encaissé dans les tout derniers instants à Old Trafford contre Southampton hier. Score final de partout. Après l'ouverture du score d'Armstrong pour les Saints, Rashford et Martial avaient rapidement donné l'avantage aux Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United, au final coupé dans son élan. Pas de 7e victoire de rang et même pas de Big Four à 3 journées de la fin. Naïm Moniol, le club n'est que 5e. Manchester United était pourtant très très en forme depuis la reprise, pratiquement que des victoires, un nul contre Tottenham avant ce match contre Southampton, très en forme mais encore trop juste pour revenir en Ligue des Champions. On rappelle que le club est en reconstruction, que la saison n'a pas été de tout repos.
Alors, trop juste non, parce qu'aujourd'hui Manchester United, ça joue mieux que Chelsea, ça joue mieux que Leicester, faut être honnête. C'est la 3e équipe d'Angleterre, ça fait pas de doute. Et surtout sur 2020 et sur la partie post-Covid. Après, sur le match d'hier, c'est rageant, c'est frustrant. Je sais plus qui parlait d'Arakiri tout à l'heure, c'est exactement ça, parce que ils ont le pouvoir offensif, ils ont la domination au milieu de terrain, ils ont les occasions. Martial qui fait un très bon match, hein, Martial on critique pas, il en vendange une qui doit donner à Rashford, et au final vous êtes puni parce que vous faites des erreurs défensives un peu bêtes, parce que vos attaquants n'ont peut-être pas l'expérience ou le vice de garder le ballon, de faire la petite faute quand il faut, vous concédez un nul. Alors au regard de la dynamique, c'est pas bien grave, c'est évidemment ça, parce que vous êtes sur 7 matchs sans défaite, vous êtes bien placé pour intégrer le Big Four. Mais au regard du match, du scénario du match, c'est un vrai coup dur. Ça me fait penser à Leicester face à Bournemouth, parce que à force de pécher par excès, vous vous faites punir. Ils se sont fait punir.
Rashford, Martial, les deux buteurs d'hier, deux meilleurs buteurs du club dans l'absolu cette saison, 16 buts chacun. Manchester United, trop juste ou pas pour le Big Four cette saison, Gilles Verdez?
Je le disais ici la semaine dernière, c'est très difficile de jouer au football sans entraîneur. Quand vous n'avez pas d'entraîneur, Solskjaer.
Ole Gunnar Solskjaer, c'est pas un entraîneur.
C'est rien. Il connaît rien à la tactique. On parlait de Zidane, immense entraîneur. Mais bien sûr, Solskjaer est un incapable tactiquement. Demandez aux joueurs. Quand vous alignez 5 fois de suite la même équipe, d'accord, même Klopp, qui n'est pas adepte du turnover, ne fait pas ça. Lui, il voit que ça marche une fois, il se préoccupe jamais de l'adversaire, il remet les mêmes. Bah là, ça marche plus, ils sont épuisés.
Bah, quand à quelques minutes de la dynamique, vu la dynamique, il aurait tort de changer.
Vous sortez Bruno Fernandes qui doit garder le pied sur le ballon pour vous permettre
qui
de peut-être, pas être
alors qui a été déterminant oui. dans le il a pas été regain de forme des Red Devils oui. cet hiver, qui est peut-être un peu moins déterminant.
Alors, sur le match, oui, mais quand même, vous le sortez lui, ils tiennent plus le ballon, ils se font rejoindre. Je vous le dis, sans entraîneur, vous ne pouvez pas aller très loin.
C'est le joueur qui a été le plus utilisé depuis qu'il est arrivé, il peut aussi souffler.
Mais pas à 5 minutes de la fin d'un match. Et d'ailleurs, ils se prennent un but dès qu'il sort. Voilà, c'est mathématique le foot. Hein.
Je trouve l'analyse de Gilles Verdez par rapport au technicien norvégien quand même très dur, Franck Simon.
Ça me déçoit de vous, mais...
C'est pas mal quand même ce que fait Manchester United. Et s'il manque quelque chose, c'est peut-être pas que de sa faute.
Un peu quand même. Parce que on a un calendrier qui est très particulier post-crise liée au Covid-19. Donc il y a pas, d'ailleurs je crois qu'ils n'étaient pas engagés que dans ce championnat, ils sont aussi
ils sont en coupe nationale voilà. Et puis ils sont encore en Ligue Europa.
Ouais, donc t'as un gros calendrier, t'enchaînes beaucoup de matchs, à un moment donné le turnover, c'est la base de tout quoi. Ils ont des effectifs qui sont taillés pour ça. Donc si tu te pannes sur des matchs importants, là hier c'est si c'était plus tôt dans la saison, on dirait bon, d'accord, c'est un accident, on va mettre ça effectivement sur le compte que c'est pas le roi des stratèges. Mais là on est pareil, on est vraiment dans la fin de championnat, il y avait besoin de ces points. Si. Donc il en est responsable, c'est une grave faute professionnelle quand on est si proche du but.
Je suis d'accord Franck. Non mais oui. Franck, ce qu'il dit est juste.
Mais alors moi je vais vous poser une autre question, je vais un petit peu élargir. Qu'il soit un petit peu responsable du match nul hier sous le charme.
C'est un euphémisme Hugo, honnêtement, hein, parce que je suis assez proche de l'analyse.
On a quand même l'impression que là ça va mieux. On sait que Ole Gunnar Solskjær, il est en quelque sorte considéré comme une impossible héritier de Sir Alex Ferguson, dont il était
l'arbitre.
On a l'impression, pour la première fois depuis plusieurs années, que Manchester United peut revendiquer une politique sportive relativement cohérente, un développement cohérent, une progression cohérente, et qu'il en fait partie.
Disons que
technicien norvégien.
Pour la première fois depuis quelques années, il y a des vrais beaux joueurs de ballon. C'est-à-dire que Bruno Fernandes, Pogba revient bien, Rashford, Martial. S'ils avaient une défense un peu plus solide, ça serait une équipe très compétitive Manchester United. Ce que disent Franck et Gilles, c'est pas faux dans l'absolu. Après, il faut voir aussi un truc, c'est que Manchester United part de tellement loin. Faut se rappeler de ce qu'était Manchester United avant le Covid. C'est que c'est une équipe, tu t'en parles même pas pour les places de Ligue Europa. Et la dynamique qui a suivi l'arrivée de Bruno Fernandes, le repositionnement de Martial.
Odion Ighalo, le Nigérian.
Et de Ighalo également aussi. Donc tout ça fait que quand tu as trouvé une équipe qui fonctionne, où tu marques beaucoup de buts, où t'as le pied sur le ballon, tu redeviens offensivement une équipe très intéressante, effectivement, tu veux pas la changer. Bien sûr qu'il faut faire tourner, que t'es encore engagé dans d'autres compétitions, mais après, avec quelle profondeur de banc aussi, tu vois, Manchester United, ils ont pas les moyens de Liverpool et de City. Donc c'est pour ça que je partage aussi leur avis, mais je le nuance, dire que Solskjaer n'est pas responsable de ce qui se passe, tu joues pas au foot si t'as pas d'entraîneur, t'as pas non plus les résultats que t'as depuis 3 mois, si t'as pas non plus un type un peu intelligent sur le banc.
Allez, on va conclure, juste rappeler le calendrier. Les trois rencontres qui restent à jouer en Premier League pour les Red Devils, Crystal Palace, jeudi West Ham et Leicester, l'un des concurrents directs pour le Big Four lors de la dernière journée. Gilles Verdez.
Alors, avec l'effectif qu'ils ont, je suis assez d'accord avec Naïm, c'est le meilleur milieu de terrain du monde pour moi en ce moment, Manchester United, avec celui du Real. En attaque, il y a quand même un potentiel
Bayern,
extraordinaire.
Dégueu, hein.
En défense, c'est pas tout à fait calé, mais si vous mettez Zidane là, à la place de Solskjaer, ils sont pas loin d'être champions d'Angleterre.
Et tu mets où, Solskjaer? Tu le mets sur le banc du Real?
Ah non, pitié pour le Real.
Vous ne l'aimez vraiment pas, ce...
Non, je suis objectif.
Cet ancien babyface killer, hein, le tueur au visage de bébé. Manchester United, qui a longtemps été connu pour former ses joueurs et qui en a même conservé certains pendant très longtemps. On pense à Giggs, on pense à Scholes. C'était vraiment une autre époque.
C'est un bon ballon pour Liadji, on a fait beaucoup Liadji, des ballons comme ça à négocier, il est entré dans la surface, c'est très bon. Le festival d'Isaac Liadji.
Kwasi qui a bien suivi, il est félicité, lui le petit jeune, issu du centre de formation.
Bien fait Adila Ouchiche, il y a du champ devant lui Adila Ouchiche. Quel bon ballon.
Il va être tellement content de jouer son premier match titulaire en pro.
Qui ne rêve pas de jouer dans un gros club? Personne. Mais chaque chose en son temps.
Nos confrères de SoFoot.com, avec lequel collabore notre ami Shérif Guémour, ont trouvé un bon titre pour résumer le problème. Le péril jeune, les auteurs de cet article que je vous invite à lire, Clément Gavard et Guillaume Laclôtre. Les clubs français forment beaucoup de joueurs, on le sait, de très bons joueurs, ça on le sait également, mais ils n'en profitent pas toujours. D'autres équipes sont prêtes pour récupérer ces gosses à la sortie de l'école. Le PSG est concerné. On pense à Tanguy Kouassi, passé pro récemment du côté du Bayern. On pense à Kingsley Coman, qui est pas loin d'avoir suivi le même chemin il y a quelques années. Aouchiche, Zagadou, d'autres exemples. Ce matin, ce sont les journalistes de L'Équipe qui nous offrent un autre éclairage sur la question. Eux, ils ont donné la parole à Isaac Iliadji, pardon, 18 ans. Il va tenter de devenir le nouveau Nicolas Pépé du côté de Lille. Il a refusé de signer son premier grand contrat à Marseille, le club qui lui a pourtant permis d'accéder à son rêve, devenir pro. Il justifie son choix en expliquant notamment que le LOSC fait confiance aux jeunes, que son choix n'a rien de financier. Alors qu'un jeune joueur veuille jouer, on le comprend, ça c'est normal. Mais le problème nous paraît un tout petit peu plus complexe, Franck Simon, surtout pour des joueurs, Diadji ou Kouassi, qui auraient pu jouer avec leur club formateur. Ces clubs semblaient prêts à les aligner. On se demande s'il n'y a pas d'autres aspects dans ce problème, des entourages, ou si la responsabilité des clubs formateurs, ceux qui veulent récupérer les joueurs, ne sont pas également engagés. Vous en pensez quoi ?
Vous avez quasiment déjà répondu à la question. Les entourages qui font monter les enchères, ça on le sait, enfin on n'invente rien hein, quand on évoque ce souci-là. C'est le cas aussi pour le joueur, hein, il rejoint pas les dogs lillois comme ça en ne faisant pas une bonne opération. Faut pas rêver. Voilà. C'est un problème qu'on évoque sur les joueurs. Vous avez parlé, enfin les papiers parlent des joueurs français, mais aussi c'est aussi dans le football féminin, c'est la même en ce moment. Football féminin qui est en développement, donc la même chose arrive. Et puis le football français ne forme pas que des joueurs français, forme aussi des internationaux étrangers, notamment beaucoup de joueurs africains et qui suivent le même parcours. Souvenez-vous, on a eu ce débat il y a quelques années en arrière en disant, il s'était plaint à la DTN en disant, ouais, mais nous, on claque beaucoup de pognon pour ces joueurs qui ne vont pas jouer pour nos équipes nationales. Je m'éloigne. Mais derrière tout ça, il y a quand même le souci. C'est le fait que comment dans les entourages, ben, les agents, les représentants, ils demandent, mais si, tu le sais bien.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis.
C'est pas que du sportif.
Alors déjà, est-ce qu'il faut regretter qu'un joueur, formé dans un club, ne signe pas pro, son premier contrat professionnel dans ce même club, s'il a la promesse d'avoir du temps de jeu?
Non.
Non.
Non. Et c'est là où je suis.
Là, vous êtes pour leur liberté totale de signer pour un autre club.
Oui. Et c'est là où je suis pas d'accord avec ce que dit Franck, c'est que, en fait, c'est toujours facile de dire, le joueur, il en veut toujours plus, l'entourage, il veut du pognon, et puis on leur monte la tête, et puis machin. On propose quoi aux joueurs? Aujourd'hui, le projet de l'OM avec les jeunes, c'est quoi? Qui peut le dire? Personne. Personne. Liadji l'a dit non, tu peux pas.
Camara, Lopez.
Camara, Lopez, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on parle de la tripotée de gamins qui sortent du centre, qui sont prêtés une année ou deux au Gazélec Ajaccio et qui terminent à Cannes ou à Toulon en CFA2? Tu veux qu'on en parle de cela? Parce qu'il y en a 10 fois plus, hein. D'accord?
Mais donc, Liadji n'allait pas être promis à un destin différent.
Tu peux le certifier?
Non,
tu peux pas. Tu peux pas. Il est à son poste, il y a Thauvin. Thauvin va s'en aller? Je crois pas. Premièrement. Deuxièmement, l'OM est en cours d'être vendu. Alors, on ne sait pas si c'est avec celui dont on parle ou un autre, mais on sait que le club, qui sera le propriétaire dans 2, 3, 6 mois? Qui en sera le président? Est-ce que Villas-Boas va refaire une année complète d'entraîneur? Ça, franchement, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire que l'OM, aujourd'hui, est dans une situation d'instabilité, d'incertitude. Il choisit d'aller où? On dit, ouais, mais il veut toujours plus, il veut de l'argent. Moi, je suis sûr que ce gamin-là, il a eu des propositions à l'étranger. Il va à Lille. Dans un projet qui est quand même dessiné depuis 2-3 ans, avec un entraîneur qui lui montre qu'il fait jouer les jeunes, parce que les jeunes à Lille qui perdent, tu parlais de Pépé, tu peux parler d'Ikoné, tu peux parler d'Osimhen, tu peux parler de Léao, tu peux parler de pas mal de jeunes.
Enfin, c'est une gare de transit, hein, le LOSC. Hein.
C'est une gare de transit, mais d'accord, entre une gare de transit qui te fait jouer un an ou deux, des vraies saisons avec un niveau européen où derrière tu peux aller jouer, et une gare de transit comme Marseille où finalement tu sais pas si leur but c'est de prendre des jeunes, de les former, de les vendre, ou de faire signer des contrats pro puis d'aller chercher des mecs en Argentine ou au Brésil qui sont pas plus expérimentés, pas plus forts, mais qui vont jouer à leur place. Donc en fait, c'est bien beau de dire ouais, les clubs français ils forment mais les jeunes ils s'en vont. Oui, mais on leur propose quoi aux jeunes dans les clubs français? Tu parlais de Kouassi, on lui propose quoi à Kouassi au PSG?
Il croit qu'il va être titulaire à 17 ans.
Est-ce qu'on leur propose mieux à l'étranger? Est-ce qu'on propose mieux en Bundesliga? Qui est l'un des nouveaux Eldorado.
Bundesliga avec les jeunes français, on peut dire ce qu'on veut, ils les font jouer. Ils sont peut-être pas tous titulaires au Bayern, mais les gamins, quand ils partent, on les retrouve tous. Hein.
Il y a un problème plus global de la France avec sa jeunesse que vous retrouvez dans le foot. En France, on surprotège nos jeunes. On ne sait pas très bien quel avenir ils auront sur le front de l'emploi, mais on n'a pas compris qu'aujourd'hui, la jeunesse s'est raccourcie, s'est accélérée. À 17 ans, vous êtes un adulte dans le monde du football. Oui. À 18 ans, aujourd'hui, l'avènement d'Mbappé a fait ça. En plus, c'est chez nous. Vous êtes, je dis pas que vous êtes vieux à 18 ans, mais à 18 ans, vous devez déjà être titulaire dans votre acception à vous. C'est-à-dire que Ladji, il se dit, je suis jeune, je dois jouer. Quand il y a une phrase très symbolique dans l'interview, il dit, mais Villas-Boas et Marseille m'ont remis en réserve. Et il prend ça, lui, de son point de vue, comme une suprême.
Oui, parce que j'ouvre une petite parenthèse, cette interview, elle renvoie pas forcément une image très positive de ce joueur qu'on a à peine vu.
Et ben,
deux apparitions la saison dernière, et il parle un peu comme si il avait une longue expérience.
Mais c'est là où
des attentes conformes à un statut qui n'est pas le sien.
Où je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une accélération de la jeunesse dans son esprit à lui, et les clubs français n'ont pas compris ça. Pour moi, c'est le problème. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui un jeune comme lui, il estime qu'il doit être titulaire, et comme un autre club que son club formateur, c'est Lille, mais ça aurait pu être, oui, je suis d'accord avec Naïm, un club étranger. Là, on lui propose d'être titulaire, d'avoir plus dans le jeu. Lui, il part, il dit, mais moi, à mon âge, regardez Mbappé, il va être ballon d'or peut-être, moi, je dois jouer. Donc aujourd'hui, à 17 ans, vous vous considérez comme titulaire potentiel. Et dans les clubs français, on considère encore, oui, il a du temps pour progresser. C'est pas vrai ?
Franck Simon.
On en a vu passer des phénomènes à 17 ans, Gilles, tu te souviens de Nico Anelka, par exemple,
oui. Hein,
16 ans et demi, 17
Donc
ans
vous
déjà.
Vous les appelez à la patience, ces jeunes joueurs?
Ce que je vois aussi, non mais je vais rejoindre ce que disait Naïm, parce que je voulais t'entendre jusqu'au bout. Dans quelques saisons, avec le travail d'un monsieur qui s'appelle Nasser Larguet, je pense qu'au niveau des pépites de l'OM, t'auras des joueurs, et là, ils les laisseront pas partir. Ils les laisseront pas partir. Okay. Je pense que les mecs qui sont là actuellement, c'est... Bon, heureusement, il y a un Liagi qui relevait le niveau. Mais je suis pas persuadé que t'es que des Formule 1 actuellement dans l'écurie de l'OM.
Alors, on est bien d'accord que le niveau des jeunes de l'OM, que ce soit la réserve ou les jeunes...
Tu vois ce que je veux dire.
Entièrement d'accord. Mais tu sais ce que tu dis sur Nasser Larguet? Moi, j'entendais la même chose il y a 5-6 ans avec Jean-Philippe Durand. Ça donnait quoi?
Ouais, sauf que Larguet, on l'a vu travailler depuis 10 ans, 15 ans.
C'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est pas le centre de formation de l'OM
non, mais
en tant que tel.
C'est important
un peu quand même. Mais si je peux rebondir sur ce que vous disiez, Hugo, quand vous dites, on a l'impression que ça donne pas une bonne image du joueur. En fait, il faut que le jeune chez nous, il faut qu'il dise oui à tout. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on le forme et qu'on lui propose un contrat, si c'est un contrat de merde qui le met dans une situation où il peut pas progresser et développer sa carrière, il doit quand même dire oui. Aujourd'hui, le jeune ne peut pas dire non. Il a pas le droit de réfléchir, il a pas le droit d'avoir une réflexion
mais
sur sa situation.
Regarde, il a pris sa liberté, il s'est tiré.
Il a raison, mais il a raison.
On lui reproche pas.
Il a tout à fait raison. Est-ce que le jeune devrait dire oui à tout le temps?
Est-ce qu'il faudrait réguler, limiter les attaques entre guillemets des autres clubs qui voudraient un peu se servir dans les pépinières?
Mais c'est déjà quand même relativement protégé, et les instances internationales, si elles surprotègent, eh bien elles iront contre les lois européennes. C'est le marché des travailleurs, c'est très compliqué.
N'oubliez pas
déjà
que
les mineurs, c'est protégé globalement, hein. Mais les clubs
français, je vais quitter le PSG, alors il s'engagera une fois devenu majeur, et c'est pour très bientôt.
Mais oui, et quand Franck disait bientôt ceux de l'OM ils partiront plus, mais mon cher Franck, ils partiront parce que
Si tu arrives à les ficeler avant, peut-être
pas. Mais t'arriveras pas, parce que les étrangers ont fait comme les Français, ils viennent sur tous les bassins de population où il y a des jeunes talents, ils les repèrent déjà 3 ans avant, ils travaillent avec les agents, ils travaillent avec l'entourage familial comme les clubs français, et le gars talentueux en Ile-de-France, j'en connais plein, le PSG les suit pendant 3 ans, les jeunes, d'accord, avant de recruter quelqu'un, 3 ans. Mais les clubs étrangers, eux, ils foncent, et au bout d'un an, ils disent, on vous propose ça. Les jeunes, ils vont partir à l'étranger.
Après, excuse-moi, Annette. Mais après, dans le cas de Liagi, on parle pas d'un joueur lambda. C'est un gars qui est international dans sa catégorie d'âge. Ouais. C'est-à-dire, c'est déjà, il a déjà une valeur ajoutée par rapport au même joueur.
Notamment disputé la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Exactement. Donc là, c'est pas le joueur lambda pour le coup. Et moi, honnêtement, je suis pas du tout contre le fait que le gars, il s'exprime et qu'il parte. La preuve, il a pris sa liberté, il fait une petite opération. Tant mieux. Mais, Je trouve que c'est quand même dommage que le club derrière ne fasse pas le.
Alors je suis bien d'accord. Alors il y a deux choses. La première, c'est que n'oubliez pas que le championnat de France, c'est pas propre à Marseille, ce que je dis. Le championnat de France, c'est un supermarché, c'est un championnat d'exposition qui a besoin de vendre pour avoir de l'argent. Donc
pousse pas les joueurs à s'engager sur la durée, à s'identifier.
Si. Deuxièmement,
dans beaucoup de clubs en France, il faut le remarquer, dans beaucoup de clubs en France, la politique de formation est systématiquement contraire à la politique de recrutement. C'est-à-dire qu'en France, on veut former des jeunes, essayer d'avoir des pépinières comme on voit dans d'autres pays pour démarrer des cycles et essayer de pas dépenser trop pour faire des économies. Mais à côté de ça, on est le premier pays à aller chercher des Argentins, des Brésiliens ou je sais pas quels joueurs qui sont pas plus vieux que vos jeunes, qui sont pas plus expérimentés, qui parfois ont des problèmes d'intégration terribles parce qu'ils viennent du bout du monde dans des championnats qui sont des championnats cacahuètes. Et au final, on forme des mecs, on les empêche de partir, on leur propose des demi-contrats, tu vas jouer un peu en CFA, un peu dans le groupe, un peu machin.
Mais on leur propose pas un vrai projet, si je comprends bien.
Mais c'est exactement ça le souci. Parce que dans énorme, je vais pas généraliser et mettre tout sur le dos de l'OM, il suit un peu le mouvement, mais la politique de recrutement de beaucoup de clubs en France est contraire à la politique de formation. Et ça, c'est un constat que tu fais dans 15 ou 16 clubs sur 20.
L'une n'accompagne pas l'autre. Si je vous suis bien, j'en reviens quand même aux agents, aux gens qui poussent peut-être à faire monter les enchères et qui sont peut-être plus animés par des soucis de portefeuille que de développement de carrière. Oui, mais un agent doit aussi aider au développement de la carrière de son joueur, pas seulement sur l'aspect financier. Vous me dites, c'est leur métier.
Oui, mais sauf que les agents, ils ont une vue globale. Nous, en France, on a une vue très centré sur nous-mêmes, et ça nous échappe totalement. Les agents, eux, ils sont courtisés par des clubs européens qui maintenant ratissent la France. Regardez par exemple l'exemple de Lyon qui réussit encore à avoir une politique de formation parce qu'ils cadrent les jeunes très très en amont, ils prospectent, ils savent exactement quel profil
ils arrivent à les garder un petit peu aussi
Lyon, et ils les font jouer. Lyon
Cherki par exemple, mais oui, qui s'inscrit dans la durée.
Lyon globalement reste un de nos meilleurs clubs formateurs, mais tous les autres, beaucoup ont abandonné tout ça et ils se font piller effectivement parce qu'ils n'ont pas compris. Avec Marseille, ils n'ont pas compris, le jeune il est malin, il est déjà un adulte, encore une fois il avait changé d'agent, il a préparé son projet. Marseille n'a rien vu venir, et j'ai l'impression qu'on gère les clubs à la papa, alors que les jeunes aujourd'hui, ben ils disent, mais moi papa je m'en fou, c'est moi qui décide et je pars. Mais oui, c'est ça.
Malheureusement, le centre de formation de l'OM était déjà un problème. Alors, c'est un problème depuis longtemps, mais c'était déjà un problème sous Bielsa. Bielsa, quand il est arrivé, il a dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes dans le groupe à l'entraînement? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes avec nous en match? C'est l'utilisation des jeunes à l'OM a toujours été un souci. Tout à l'heure, tu me disais Camara, Lopez, oui. Mais t'en as combien des jeunes qui étaient très bons à 17-18 ans? Bien sûr. Mais des jeunes à 17-18 ans, parfois même qui ont fait des carrières ailleurs, qui ont été internationaux en Afrique, tu en as. Mais t'en as combien qui ont été prêtés 1 an, 2 ans, 3 ans et qui aujourd'hui ont été reclassés amateurs? Mais t'en as beaucoup, parce que aujourd'hui la réalité de la formation à l'OM, parce que tu parles de l'IAG, c'est que les jeunes, quand t'as sur un périmètre de 300-400 bornes, Marseille, Montpellier, Monaco, Nice, mais Marseille c'est le quatrième choix, parce que non seulement c'est un club où les jeunes ne brillent pas beaucoup, où la réserve ne brille pas beaucoup, et où tes chances de jouer en équipe première sont quand même très minces, ouais. Contrairement aux trois autres clubs que je t'ai cités. Mais ça c'est la réalité aussi. L'IAG il est pas idiot quand on dit, ouais mais il s'en va, il donne pas une bonne image. Ben oui, mais si le projet qu'on lui propose il correspond pas à sa progression, si aujourd'hui il a le niveau, le talent et des garanties à Lille en l'occurrence de Galtier et de Lopez, on lui dit tu vas jouer, pourquoi est-ce qu'il devrait flinguer sa carrière?
Mais il va jouer pour être exposé, finalement le projet lillois, oui. Il met en valeur les jeunes, mais c'est pas beaucoup plus.
Il jouera un an. Ragoûtant. Il fera Pépé, Osimhen et Piliadji. Mais il est là pour ça.
Pépé, Osimhen, c'est des bons joueurs. Hein.
Mais je le critique pas du tout. Il est là pour dire, je vais être titulaire. Je suis sûr de moi, en fait. Je vais jouer à Lille.
Je vais jouer et puis on va me revendre. Ben oui. On va me vendre.
Il n'y a pas de choses un peu plus romantiques, d'alternatives un peu plus romantiques dans notre futur.
Mais non, aujourd'hui, vous avez une accélération de le football. À 17 ans, vous devez être une star. Donc dans leur esprit, ils sont des stars. Et moi, je les critique pas. Tout a changé. Et non, le romantisme n'existe plus.
Et la terrain a justifié tout ça, le gamin. On va regarder. On sait que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité et tout. Faut qu'il justifie ça, et ça va lui mettre, je suis désolé, ça lui met une pression supplémentaire.
Mais il la recherche, je pense qu'il la recherche.
Certainement,
mais
oui. Certainement.
Allez, après les jeunes espoirs français, on va conclure cette émission avec le foot africain et ses stars.
African Player of the Year 2019, Sadio Mané.
Sadio Mané.
C'est Sadio Mané.
Oui, Mané, le meilleur joueur du monde.
Mané remporte la Ligue des Champions, il fait un championnat de Première Ligue exceptionnel.
Il rentre dans la cour des très grands et maintenant le Sénégal va être très fier de lui.
Ça a été toujours un rêve de gamin pour moi, je me suis toujours battu, honnêtement. Et je peux vous dire que je viens de très très loin, et aussi sans oublier le soutien de tout un peuple. Je sais que sans eux je ne pouvais pas, et les Sénégalais m'ont vraiment accompagné, je serai éternellement reconnaissant envers tous les Sénégalais.
Tiens, j'ai cru entendre un Gilles Verdez dans ce petit montage sonore. Ce n'est pas le dossier le plus explosif du football africain actuellement, loin de là. Rien à voir avec le report de la CAN masculine, l'annulation de la CAN féminine, mais c'est une conséquence non négligeable de la pandémie. Pas de trophée de la CAF 2020, pas de meilleur espoir, de meilleure joueuse ou de meilleur joueur africain cette année. Sadio Mané, qu'on a longuement entendu, dernier lauréat en date, en 2019, n'est pas menacé de perdre son statut pour l'instant. Est-ce que c'était un peu prématuré de prendre cette décision 6 mois avant, parce qu'ils auraient été remis début 2021, ces trophées de la CAF, Franck Simon, vous comprenez la décision de la Confédération africaine de football?
Je l'ai entendu le jour même, je la comprends pas, Et je me dis que tout est possible avec la gouvernance actuelle de la CAF.
En tout cas, ça ne vous plaît pas, si je comprends bien. À votre intonation, vous aimeriez bien les garder.
Ah, vous interprétez comme ça, Hugo. Déjà, pour revenir...
C'est pour ça que vous êtes là. Hein.
Oui, déjà, par rapport à ce que vous disiez juste avant, l'histoire de la remise de... Enfin, la non-remise de ces trophées, je pense qu'effectivement, il y a des dossiers plus chauds, et notamment dans les compétitions de clubs, là, qui sont...
Tout ça date de fin juin, donc on a pris le temps de revenir sur les dossiers chauds.
Ça m'attriste. En revanche, là où je serais pas attristé, c'est de pas entendre notre ami Samuel Eto'o présenter l'émission, parce que franchement, ça avait pas été
référence à la dernière cérémonie.
C'était pas une réussite. Je pense que Didier Drogba est bien meilleur dans ce registre-là de MC, comme on dit, maître de cérémonie.
Est-ce que l'Afrique, le football africain, a-t-il besoin de ces trophées-là?
Oui, pas cette année. Donc moi, je partage pas du tout l'analyse de France.
Dis pourquoi.
Je trouve que cette décision de report ou d'annulation, comme vous le voulez, est une bonne décision. L'Afrique est confinée. L'Afrique vit l'Afrique, comme elle peut, tente de juguler la pandémie. Et globalement, elle le fait très bien avec de gros efforts. Mais c'est difficile. Il y a plein de championnats annulés. Il y a plein de compétitions qui n'ont pas lieu. Comme un symbole.
On parle pas de championnat, on parle d'un truc en janvier 2021.
Laissez-moi juste finir. Comme un symbole. L'instance africaine ne pouvait pas dire on remettra un trophée. Aujourd'hui, c'est quoi le trophée que veut l'Afrique? C'est d'avoir lutté magnifiquement contre la pandémie. Donc, il fallait annuler. Quelle star serait venue? Il n'y a pas de déplacement. C'est pas possible de circuler.
Non, mais entre annuler la cérémonie, ça veut pas dire annuler le scrutin.
Voilà. Mais alors, vous auriez fait une remise virtuelle à un joueur qui aurait dit, je ne peux même pas aller remettre.
Il faut reconnaître que les potentiels lauréats, vont peut-être jouer la Ligue des Champions,
les championnats étrangers se terminent, les Coupe d'Europe se termine, tu vas avoir une première partie de saison.
La star africaine, elle aurait dit, mais moi je pense à mon continent, je pense à mon pays, qu'on me remette pas de trophée aujourd'hui.
On verra si on leur demande de venir faire des matchs à l'automne, on verra si Sadio se déplace pas. On verra, Gilles.
Mais ça n'a rien à voir.
Partout dans le monde,
mais il y a des avions qui circulent.
Partout dans le monde, il faut recommencer à vivre, retravailler, ressortir, ceci, cela, mais pas en Afrique. Donc on infantilise l'Afrique.
Tu n'es pas obligé de faire une cérémonie.
C'est l'instance elle-même qui a annulé.
Tu peux faire voter les gens, tu lui remets, tu fais un truc virtuel, le mec il s'exprime. Sadio Mané fait une super saison avec Liverpool. Oui. Riyad Mahrez, il fait une super saison avec City. T'as les Coupes d'Europe qui vont se jouer, tu vas avoir une première partie de saison là à partir de la fin août et tu remets pas le... Tu
décentrales moins cher à la carte.
Arrête un petit peu, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est ridicule à huis clos. Vous pensez
à ce moment-là, le Ballon d'Or, ils vont la jouer aussi.
C'est un autre débat là. Oui, la Coupe d'Europe.
Mais les stars africaines ont autre chose à l'esprit.
Je pense que Gilles Verdez estime que le sacre de Sadio Mané l'année dernière a conclu cette remise de trophée.
Il
n'aura
pas à dire.
Tu peux organiser les vols, les vols continuent de circuler.
Mais ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ils ont annulé alors? Ils ont annulé, il y a bien des raisons.
Quand le président Hamad a annulé, il l'a même pas justifié.
C'est un jour de fête nationale. On va achever cette émission avec un peu de musique pour apaiser l'atmosphère.
D'ailleurs, Gilles va défiler.
De la Concorde sur ce plateau. Vous l'avez réclamé tout à l'heure.
Oh, les
Beatles. Des Beatles. Une surprise que vous a réservé le maestro Laurent Cerno.
Merci maestro, puis c'est bien ça calme cette jolie musique.
Voilà. Ça nous calme. Et c'est Sarah Loubacouche qui est suggéré qu'on puisse la diffuser pour conclure cette émission.
C'est une bonne idée.
Merci à vous également, Franck Simon. Merci Gilles Verdès. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je dis, on peut s'aimer et s'engueuler. Hein.
Exactement.
C'est ça le
débattre.
Il faut s'apprendre sur le terrain, on se serre la main.
C'est souvent comme ça.
C'est le fondement de la démocratie. La
vie. Je vous aime tous, hein. C'est pour ça que je m'engueule toujours avec vous. Hein.
Merci Naïm Moniol. Merci Sarah Loubacouche. Merci Laurent Salardon. On se retrouve demain. Radio Foot International, on fêtera un anniversaire. Ah. Les deux ans de la victoire d'une équipe qui joue en bleu, qui a remporté un trophée contre la Croatie. Ça vous dit
encore
peut-être
une petite Marseillaise
quelque chose. Exactement. On se retrouve demain. Très bonne soirée sur RFI.